Nous sommes sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et ce matin, nous allons parler en deuxième partie d'émission du masque mortuaire de Hegel et en première partie d'émission d'une monographie parue sur une artiste et cinéaste qui habite à Genève, qui est d'origine vaudoise et qui s'appelle Véronique Goël. Donc, on vient de sortir une monographie, film et installation, diffusée par les Presses du Réel. Elle n'a malheureusement pas pu venir. Alors, nous allons écouter la bande-son de son premier film. Mais je vais vous faire une petite présentation succincte d'abord. Et donc, vous pourrez regarder sur les Presses du Réel, c'est bien documenté. Et elle a aussi participé à une exposition à la rue des Beaux-Arts à Paris, à la galerie Arnaud Lefebvre, l'exposition qui avait pour titre « L'accouchement », et elle est venue présenter sa monographie. Elle a été filmée et ça a été publié sur YouTube, c'est en ligne. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle François Bovier qui a écrit un texte de la communauté et du désœuvrement dans l'œuvre de Véronique Goël. Et il commence par ceci, le texte. « Les films de Véronique Goël se caractérisent par leur rigueur formelle, par la systématicité de leur structure et par la radicalité de leurs principes de construction. Mais ils n'en renoncent pas pour autant à construire une fiction ou à documenter le monde qui nous est contemporain, tout comme les utopies du passé. Ils reposent, dirais-je, en première approximation sur la relation entre un espace urbain et la mise en scène des personnes qui l'habitent, le traversent, quand il s'agit de fiction, et sur l'articulation entre l'architecture, qu'il s'agisse d'un bâtiment ou que celle-ci s'étend à l'ensemble d'un quartier, d'un territoire, d'une ville, et son habitation, son occupation quand il s'agit d'essai. Ces scénarios se développent à partir de l'espace urbain, de son tracé, de sa construction et de son parcours, de son arpentement. Or, si l'urbanisme engendre des contraintes, il peut être aussi le gage de rencontres potentielles. Le déplacement constitue le trope principal de ces films. La caméra suit et restitue les actions quotidiennes d'une communauté en devenir ou en déshérence. L'espace urbain impose une grille, modèle au centre de l'art littéraliste et du minimalisme, à partir de laquelle le récit se constitue, se déploie. La dimension temporelle constitue un axe central dans la construction de cette déambulation. L'espace ne peut être éprouvé qu'à travers une durée insistante qui parfois rappelle l'hyper-réalisme d'œuvres aussi différentes que celles d'Andy Warhol ou de Chantal Akerman. Je vous lis un deuxième paragraphe à propos du film qu'on va entendre qui s'appelle Allegro. À travers ce prisme de lecture, sa filmographie gagne en cohérence. La quête d'une communauté apparaît comme une thématique manifeste ou latente qui traverse l'ensemble de ses films. Le premier court-métrage tourné en 16 mm, Allegro, 1979, 20 minutes, traite de façon allusive de la division, de la dispersion, de la séparation du groupe. Allegro repose sur le montage d'un texte, d'une musique, de paysages et d'éléments urbains filmés en mouvement, et de portraits, ou pour le dire plus précisément, d'antiportraits cadrés en plan fixe. La bande image et la bande son entretiennent une relation d'indépendance. En ce sens, Allegro est un film sur un groupe dont on ne comprend guère les liens, les relations. Cinq voix alternent et s'entrelacent, fragmentant aussi un texte qui est pourtant lu dans sa continuité. Les personnages ne sont pas co-présents à l'écran, ou quand deux personnes sont cadrées dans le même plan, ils sont à distance et ne se regardent pas. Ceux-ci sont filmés individuellement, ce qui peut signifier une absence de cohésion au sein du groupe, ou du moins une difficulté à échanger, à partager ou à se souder. Et donc je donne la conclusion de ce passage sur Allegro. Les travelling occupant la part la plus importante du métrage d'Allegro impriment un rythme particulier au film, comme si ce n'était pas seulement le paysage urbain ou périurbain qui défilait, mais encore le temps qui passait et avec lui les liens du groupe qui s'effritaient. Ces travelling constituent littéralement une série de vues qui passent, affirmant une esthétique de la banalité. Il n'y a pas de motif saillant, de centre de focalisation, ni de développement dramatique, de progression narrative. Le caractère répétitif des travelling, centré sur un espace urbain ou en voie d'urbanisation, renforce leur indistinction. De plus, une tension s'instaure entre l'élémentarisme de la structure du film et le caractère relativement indéterminé des plans. Le parcours du train est fixe, mais l'impression qu'il procure est fluctuante. Nous sommes loin ici du poncif de l'errance dans la ville qui traverse tout un pan du cinéma de l'après-Nouvelle Vague. À l'opposé de cette perspective individuelle et individualiste qui se limite à un point de vue, un centre de dénonciation, cet antiportrait de groupe tend à signifier une communauté d'action et de pensée qui se disperse, se délite irrésistiblement, irrévocablement. On y va pour Allegro.
Nous en sommes là, dans ces fins de choses, ces fins finissantes. Plus de douleur et encore des mots pour la dire, plus de complaisance. Sous encore de temps à autre des liqueurs de la fente, au bout d'un monde et de ses anecdotes et de son esthétisme.
Les derniers bourgeois raffinés ont disparu depuis longtemps.
Deux, trois provocateurs traînent encore par là.
La banalité est devenue l'originalité absolue.
Les gens se posent tous des questions essentielles.
Qu'était ? Quelle dérive celle des fous ? Il n'y en a plus.
Ils ont dans leur village de pêcheurs des impressions de dernière carré. Ils se sentent les dernières sans pouvoir dire de quoi.
Un vagabond devant la porte du buffet. Il grince des dents, il rêve, il tombe, il hurle, pas un bruit. La brume se dissipe, la lune apparaît, comme la neige peut-être.
Demain, je ne ferai plus la suite des coutumes. Douce puis molle, elles s'émoussent lourdement. Ils s'étendent, accalmis.
Je le vois soudain, j'aurai à travailler. Elle dort, sortie enfin de la récrimination.
On n'invente rien, on croit inventer, s'échapper. On ne fait que balbutier sa leçon. Des bribes d'un pensum appris et oublié, la vie sans larmes telle qu'on la pleure.
Le deuil fut un analgésique. Ce ne fut pas long, il fallait en finir, les insulter tous.
Ma décision d'en finir, je la pris d'un coup, dans la nuit. Seul, gentil, pliant mon art, discret de moi.
La coutume, les habitudes, rendaient de dû notre haine impénitente. Le travail de notre naïveté vidait le danger de tout contenu.
Prison, évasion, anecdotes, faits divers, symboles. Nous sommes souvent cruels dans notre volonté de connaître. De vraies petites crapules. Sans vocation et surtout pas celle d'être flagellés. Nous nous traînons les uns les autres dans les rues. Le métempirique, le moins paisible, nous dévore.
Dans cet ensemble de vestiges d'un système archaïque qui va à la fin de la conscience, nous étions, bien malgré nous, contraints au repli.
L'acné de la rouille, les funérailles anarchistes, la mélancolie turinoise nous semblaient inhérents à notre condition. Nous ne comprenions pas tout, ni les stigmates du monde financier encore sous l'aisselle, ni qui nous étions, ni la quadridimensionnalité.
Nous n'avions aucune certitude. Il n'y avait plus présence ni compénétration. Plus qu'une activité soutenue, acharnée, mais peu intense.
Pas de prescription, d'interdit, de suggestion, d'assurance. De la souplesse, de la décontraction, de la mollesse, du débraillé. comme des oiseaux par milliers rongés d'une maladie, secs, creusés et craintifs, sous un arbre à cons, à la limite au terme.
J'épilogue sur le dénouement comme si la décadence pouvait disparaître. Elle fut confiée à des artistes chinois.
J'ai frappé, d'abord doucement, sur la joue.
Un goût de sang au fond de la bouche.
Les mains moites.
Une impasse somptueuse.
Transhumance est toujours étranger. Bonheur de l'exil. Silence morose.
Une autre chose, peur. Maintenant je sais que c'est ça. Clairvoyance, intériorité. Et pourtant c'est bien situationnel. Moment long de décortiquage. Envie irrépréhensible. Limpide, austérité.
Sa colère, dérisoire espoir de finitude. Subtile variation sur les claveaux et les allèges. Fume-nous des embaumeurs.
Décompression difficile, isolement. Toutes les émergences se caractérisent par deux actants. La violence, le romantisme.
Pas fatigué de sa trentaine, résistance. Affamé et sonore, blindé. L'ordre nous déforme.
Elle, couchée sur des coussins, sous la toile de Corogo, me signale un superficiel qui m'emmène à subordination. Déménager, entrer dans la pudeur.
Nous vécûmes en ce temps-là une réconciliation tribale et nous sortîmes paradés.
La tension monte. 7 barrages sont mis en place dans l'après-midi. Les commerçants baissent leurs rideaux de fer. Nous, des chercheurs, bleu d'azurite, jaune d'ocre, rouge, vert de cuivre, blanc de plomb, noir de fumée et brun, blanc d'œuf, gomme et colle. Débrouillez-vous.
Les petites amoureuses, indolentes aristo, glandeuses, juste avant que les grands brouillards ne s'installent. C'est l'époque de la brutalité mentale, de la hantise, de l'obsession, perte de contrôle, syntagme crévotante de n'être jamais terminée.
Elle a de longs lobes très beaux, j'ai une paume levée, absence de crainte, une paume baissée, générosité, un poing levé, absence de crainte, et un doigt dans l'oreille, désir. J'ai le nez épaté.
Toujours ce mouvement de balance, superbe, inhumain, purifié.
Elle a la voix fatiguée et attachante. Je me détache.
Elle gagne des batailles mais perd la guerre. Les bouts, elle les tord jusqu'à ce que. Cela la stimule énormément. L'esprit de sérieux.
D'un simple point de vue policier, on ne pouvait rien nous reprocher. Cela fut mis à notre compte.
Le vrai s'empara de nous et nous fûmes tous ivres. Remède de bonne femme, le temps des paumées est venu. Elle l'accepte. Nous redevâmes ambulants, errants, instables.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
J'ai la patience d'un vieux targui attendant la pluie. J'ai la nervosité de quelqu'un qui se censure. Le tout peinturluré en rouge s'appelle portrait. Ceci peut être regardé à la loupe, j'y ai peint mystiquement des détails invisibles à l'œil nu.
La vie peut être sans vie. Une douce et gentille misère censure le foutre et la puissance.
De l'ordre de la caricature, le travail confusément s'invente des bribes de larmes. Paroles futiles, lestées.
Il a plu toute la nuit et il pleut encore.
Certains sont sidérants, d'autres pas du tout et d'autres encore moins. Baratin, des mots, lent, au retour de la navette, bruit insoutenable. Et j'ai suivi ce mauvais garçon qui sifflotait main dans les poches.
La répression est sanglante, coups de main, attentats, embuscades.
L'isolement est une sorte de torture lente. L'invention individuelle est un obstacle à la communication. Tous daltoniens. La nuit est belle.
Commander, obéir, chair de poule, frisson, écœurement, satisfaction. Sans commentaire, sans image, sans rien. Tu portes un blouson de cuir, tu roules des mécaniques, et tu gagnes quoi?
Il bouffe le plaisir, il plie la pompe de la séduction. Nœud obscur, habitude du jeu. Moi minus, moi naïf, plus fondant, haletant, bluffant. 3. Désaccord harmonieux.
Nous entrons dans le cousu humain. Nous n'en étions alors pas conscients. Pourtant, le fait que tout se défaisait autour de nous aurait dû. Puis les récoltes poussèrent encore une fois. Inquiets et quiets, nous préparâmes les bagages.
Elle en me léchant les aisselles et moi en bandant.
Il fut décrété l'état statique de la jouissance autorisée. La frivolité, le goût de l'apparence, la désappropriation, ce qui est jouissant, dominateur, accapareur. Cette histoire va mal finir. Un canon froid contre une tempe.
Nous décidâmes d'une association sans statut.
Il est complètement givré et défend l'honnêteté. Malade, sous-alimenté. Léger et irresponsable. Inconséquent.
Elle est mince, chétive, fragile, sauvage, porteuse d'une force inébranlable.
Il est tassé, bougon, joyeux.
Elle doit plier sa nuque roide et apprendre ses façons.
Il a paru gracieux, doux, débile. C'en est trop. La motion passe. Il nous faut entrer de suite dans des conduites paroxystiques d'exaltation collective et de démesure face à l'insignifiance.
Certains ont trouvé le moyen de désavouer les révolutions tout en avouant les révolutionnaires. Ils célèbrent la révolte.
Agence matrimoniale. Cette illusion, c'est l'instinct de quoi se perpétuer. Parcimonie de la mesure, comme le monde.
L'horizon mental de ma mère s'aplatissait à vue d'œil, au-delà du restreint.
Une fatigue des yeux engendrée. Notre tendresse ironique implique le désaveu de toute espèce d'enthousiasme vrai, et même du simple accouplement de ces deux mots-là. Il n'y a pas de connexion, ignorez-moi, car il ne reste que calcul. Contrôlez vos émotions, rebelles.
Un jour, je rencontrai une femme vierge. Ma surprise devant mon absence d'intuition fut extrême. Dans mon désarroi, j'en devins mufle, goujat, balourd et butor.
Puis nous fûmes chassés de partout.
Androgyne lassé, barbouillé, social et positif. Le négatif fut notre grand amour. Escalier à palier sans issue. 7 oreilles pour écouter ce qui ne se dit pas. Jamais. Amer comme de l'absinthe. Nous acceptons de nous nommer les uns les autres. Bâtards.
Les heures suintent. L'argent s'épuise. Comme une perversion assouvie, tout glisse vers l'insipide. On ne peut pas adorer une culotte. L'ineffable, néanmoins, se libère dans le silence des cerveaux.
Ils nous détachèrent. Nos voix fatiguées, purifiées, humaines, superbes de balance et d'harmonie, ne portent pas très loin.
Épatant, le nez respire. Le désir de l'oreille du doigt. La crainte de l'absence, le poing baissé. L'avarice, la paume tendue. Tout cela ne nous concerne plus.
Les syntagmes vivants de n'être jamais terminés. De contrôle, de perte, d'obsession, de hantise, de brut, de mentalisme, c'est le temps venu. Les pluies, les brouillards, les glandes, la dolence, petite débrouillarde à la colle et à la gomme.
Le bleu de la chair de fer. Après le barrage, la montée tendue de la parade.
Emmener la toile et les coussins. Petit, déformé, ordre blindé, sonore et sans fin.
Résister même dans la fatigue et le début de romantisme. Émerge violence.
Irascibilité, fureur, colère, la véhémence dans le sévice, l'ardeur virulente, la frénésie intense, l'impétuosité vivace, la volonté d'exister. Mais le monde reste monde. Vague dans la mer, nous n'en sommes pas plus réalistes.
Décortiquer la faim, les variations, l'austérité, les envies limpides s'avèrent situation intérieure clairvoyante. Une chose morose, un autre silence. Exilé, enchanté à jamais étranger, transhumant somptueuse.
Dans une impasse aussi humide que le fond d'une bouche où des bidons traînent du sang, en joue doucement le cou.
Migration coincée dans des fossettes profondes, apparemment minuscules.
Bien sûr que cela pue un peu le cadavre. Barque barbare, suintant, pénitent.
Respirant, le bruit des machines, l'obscurité, sauf la patience, fondue enchaînée ensemble, avec peine et sans acquiescement.
Déturgescent, dit-il, discontinu. Là vient l'impensé, l'ivoire de mes dents aimé et qualifié. J'allais crier, j'aime l'ivresse.
Ivre et lion.
Sous et fauve.
Braillard et fort.
Aimant les femmes et l'alcool, et tous les chants de l'Arabie.
Litige, dans l'immensité vide et vulgaire du mythe socratique. Irritation incontenable. L'espoir et la pudeur sont la misère de l'esprit. Pas que je me plaigne, beau et vertueux, j'accepte.
Je me souviendrai qu'en plein hiver, t'es sain, suave.
Ne jamais s'abandonner, accepter le futile, la parole mouillée, molle, une petite pluie, et puis qu'on la rit, la vie pleurante et oubliée apprise par bribes, construite de faux souvenirs idéalisés.
Articuler sa leçon, s'enfermer. On croit ne rien inventer, tout importe vraiment. On invente tout, juste comme de vrai. Dire, ce n'est pas inventer.
Machin, voyeur, pulsion con, but précis, intention désintensifiée. C'est normal, moi seul ai l'esprit clair.
La marque propre se porte, tout est étroit, fermé. Arrivé à la récrimination, elle s'éveille, je n'aurai pas à travailler, à faire de décision.
Je ne vois plus rien, même pas de raison à aucune angoisse. La fortune, l'aventure, le monde dressé, lourdement aigu, dur puis doux puis tout. Coutume sans suite aujourd'hui, et nerveux en plus.
C'est dégueulasse, c'est impuissant. Ce qui est, ça sèche, soit immovible, sans impératif, sans censure.
Centre, on s'éveille, on se lève, peut marcher sans fatigue, avec arrière-goût, le dégoût le plus franc, peut-être comme la boue. La lune disparaît, la brume s'installe. Du bruit.
Ils se taisent.
Ils relèvent.
Ils sont sans rêve.
Ils ne grincent pas des dents ni ne tissent de linceul.
Pas un vagabond, pas un étranger. Du bruit. Hétérogène, rassemblé, gain de vie. Pas de son et partout du spectacle. Lumière naturelle.
fond de ce corridor étroit, comme un levier, écarter les chairs à coups de boutoir. Frénésie, perte de cette minable structuration d'atomes cinglés, comme un mur s'ouvrant sur la béatitude du néant. Adieu mon corps, le jour est long.
Il vivait comme une fugue, toujours un peu inquiet et pourtant rassasié.
Au terme d'une dérive, sans souvenir, j'avais trouvé une bouche et humble, je n'osais jamais penser la percer. À contre-jour, je l'attendais.
La première des dernières.
J'accule. Devant la force et l'assumée du désir, je restais quoi ? Bêtise insondable de l'optimisme. Force déterminée de la volonté de puissance.
Intelligence du doute transformée en coup. Donne des coups.
Et la fatigue, l'eau noire. La paresse et la dureté des muscles abdominaux tendus sans effort. Les premiers à pouvoir dire de quoi.
L'hiver froid, sec, soleil. Elle ne sait pas. J'aime l'ivresse.
Avant qu'elle ne parte pour ce voyage, je lui confiais ce qu'un court instant j'avais ressenti la veille. Fatigue avec insistance d'abord, jouant l'hypnose, ensuite émue, j'avouais la catharsis du cri douloureux au sortir du spectacle.
Je devais crier, hurler, écumer, baver ma rage. J'aurais aimé encore un baiser, me répondit-elle.
Alors que, à peine ma main sur son épaule est mise gourmand, arabie des histoires.
À genoux, je touche le sol du front, trois fois. L'œil vif, rien d'humilié, à peine humble, plein. J'ai toujours beaucoup aimé enculer mes femmes.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Nous sommes sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et maintenant, nous allons parler d'un livre paru au Seuil dans la collection Fiction et compagnie de Thomas Hunkeler qui est avec nous. Et le livre s'appelle Le masque de Hegel. Il raconte une longue enquête. Bonjour Thomas.
Bonjour Yves.
Est-ce que vous pouvez nous raconter succinctement l'enquête ?
Alors succinctement, j'espère, oui. C'est effectivement, comme vous le dites, c'est une assez longue enquête qui m'a accompagné presque 2 ans et qui m'a mené d'un début dans une salle d'université où j'ai donné un cours avec un collègue philosophe autour de la réception de Hegel en France dans les années 20, 30, 40, etc. Et moi, qui suis littéraire, je me suis intéressé à ce que la pensée de Hegel pouvait produire chez des littéraires comme, par exemple, André Breton. Parce qu'on a souvent dit, André Breton, finalement, il ne connaissait pas si bien Hegel. Alors c'est vrai au début, en 24, il cite Hegel, mais en réalité, il n'y connaît pas grand-chose. Et c'est au moment où il écrit le deuxième manifeste, donc en 1929, que Breton va se retirer sur l'île de Sein, il va lire, il va méditer Hegel, et il va, évidemment, comme c'était son genre, l'imposer à tout le groupe. Donc tous seront obligés de passer par Hegel. Alors, certains textes de Hegel sont traduits à cette époque-là, d'autres non. Mais Breton, vraiment, on le sait, va placer Hegel très haut, à côté, semble-t-il, dans sa bibliothèque personnelle, de Freud. Alors c'est dire, donc penser Freud et Hegel en même temps, c'est en tant que tel déjà un exercice dialectique assez redoutable. Et en fait, le moment où j'interviens, moi, c'est que je lisais la correspondance d'André Breton avec Paul Éluard. Et à un moment donné, Breton écrit à Éluard en lui disant « Merci cher Paul ». Ce livre est extraordinaire, je cite de mémoire, et il lui dit, surtout ses visages, magnifique, il fait une parenthèse, et dans cette parenthèse, il écrit « L'inconnu de la scène, Swift, Hegel ». Et je vous avoue, quand j'ai lu cette parenthèse, je me suis dit, mais de quoi il parle ? De quel livre parle-t-il là ? Et en fait, j'ai trouvé, premier moment hein, qui a finalement fait démarrer mon enquête, que Éluard, qui était à cette époque-là constamment en train de naviguer entre Paris et la Suisse, un peu comme moi, j'allais dire, hein, il va, seulement lui, avec sa tuberculose, il va à Rosa, il va dans les montagnes, et puis il revient. Et sur ce chemin, à Bâle, il achète un livre qui est le livre d'un historien de l'art allemand qui s'appelle Benkart. Et ce livre, c'est une collection de masques mortuaires. C'est un livre assez extraordinaire, malheureusement jamais traduit en français. Et donc, je me suis dit, mais que va faire Hegel là-dedans? Pourquoi est-ce que Breton, pourquoi est-ce qu'il choisit le masque de Hegel à côté de celui plus connu de l'inconnu de la scène, hein, qui a beaucoup fasciné Aragon, les surréalistes, etc. Ça, c'est une histoire un peu plus connue. Et donc, bah, je me suis intéressé à ce masque. J'ai découvert que dans ce livre de Benkart, qui a paru pour la première fois en 1926, eh ben, ce masque ne figure pas. Il figure que dans la troisième édition, qui est celle que Éluard va acheter à Bâle. Probablement, il avait du temps hein, à la gare, et puis il est allé dans une librairie, bah, il s'est acheté ce livre-là. Et d'ailleurs, il s'est acheté plusieurs exemplaires, parce qu'il en garde un, et il en envoie un autre à Joël Bousquet. Donc, manifestement, il a été fasciné par ce livre, et Breton comme lui. Et donc, je me suis dit, eh ben, d'où ça vient? Tout à coup, dans la troisième édition de ce livre de l'historien allemand, il y a le masque de Hegel. Où sont-ils allés le trouver en 1929, quasiment 100 ans après la mort de Hegel, hein? Et donc, j'ai commencé à chercher, mais comment ça s'est fait? Il était allé où? Enfin, il était resté où, ce masque? Il faut savoir que Hegel est mort en 1831. Mais vous savez de quoi il est mort?
Du choléra.
Mais exactement, il est mort du choléra. Alors, c'est une épidémie qu'on peut peut-être comparer un tout petit peu à ce qui s'est passé avec la Covid. Pensons à ces images assez horribles d'Italie, hein, qu'on avait vues de Bergame, avec tous ces camions, avec ces cadavres, etc. Eh bien, comment faut-il imaginer un philosophe, même si c'est Hegel, meurt du choléra, il y a tout de suite les médecins qui vont constater le décès, et tout de suite, on va s'occuper de nettoyer la pièce, on va lui emporter, la femme de Hegel le décrit dans ses lettres à sa maman, on va emporter toutes ses literies, on va mettre des fumigènes, etc., pour essayer de désinfecter la chambre de mort, parce qu'il y a quand même eu plusieurs milliers de morts à Berlin avant que le choléra n'avance plus, toujours plus vers l'ouest. Hein, il va toucher la France un an plus tard, et ben Champollion, lui aussi, va mourir de cette même vague épidémique. Alors tout ça pour dire, comment est-ce que vous faites un masque mortuaire de quelqu'un qui est mort d'une maladie infectieuse, d'une maladie hautement contagieuse? J'avais donc des questions. Comment ça s'est passé? Est-ce que, éventuellement, ce masque mortuaire était un masque qui a été fabriqué du vivant de Hegel? On faisait ça. Hein. Par exemple, Goethe, le grand poète allemand, poète national s'il en est, eh ben, lui, il a refusé de faire des masques mortuaires. En revanche, il aimait bien l'idée d'un masque, d'une empreinte faciale hein, qu'on pouvait utiliser. Ça a d'ailleurs souvent été lu comme un masque mortuaire, parce qu'évidemment, vous imaginez bien, quand on vous met du plâtre sur le visage, mieux vaut fermer les yeux. Hein. Donc, toute cette expérience est un peu à l'origine, ma question tout simplement, mais comment est-ce qu'on a pu faire ce masque? Et donc, tout le livre raconte en fait ce que j'ai trouvé pour répondre à cette question. Je suis donc allé à Marbach, c'est près de Stuttgart, c'est les archives nationales allemandes, où dans les sous-bassements du bâtiment, eh ben, vous avez une collection de pas moins d'aujourd'hui 400 masques mortuaires. Et donc, ben, j'ai essayé de savoir dans les livres, dans les registres, qui avait acheté ce masque, quand, qui l'avait vendu. Et ce voyage, donc pour comprendre l'histoire du masque, m'a amené successivement donc à Stuttgart, je suis allé à Berlin, je suis allé à Vienne, surtout, endroit très important pour mon enquête, parce que c'est là que se trouve le personnage qui a vendu ce masque à un philosophe allemand, qui, lui, l'a vendu aux archives allemandes. Hein, donc, si vous voulez, j'ai vraiment essayé de remonter toute cette filière pour comprendre d'où vient le masque mortuaire de Hegel.
Et dans ces masques, qui c'est qui vous a frappé dans les autres masques?
Alors, bah, comme tout le monde, moi, je vous dis honnêtement, je ne connaissais rien à ces masques mortuaires avant d'avoir commencé. Je savais que ça existait, mais j'y connaissais rien. Et il y a des masques absolument extraordinaire. Alors celui qui, je pense, qui a fasciné tout le monde, c'est le masque de Pascal, hein, qui avait été fabriqué sans doute en vue de la production d'un buste du philosophe. Mais c'est le masque mortuaire lui-même qui semble déjà nous raconter une sorte de souffrance et de presque de folie extrême. C'est un masque absolument grandiose. Il y a le masque de l'inconnu de la scène, hein, qui est touchant, même si on sait aujourd'hui que très probablement il ne s'agit pas d'un masque mortuaire. Cette histoire d'une fille qui se serait jetée par dépit dans la Seine et qu'un employé de la morgue aurait repêché, hein, pour, et touché par sa beauté, il en aurait fait un masque mortuaire. On l'appelait la Joconde du suicide, hein, cet inconnu de la Seine. Ça, c'est, je crois que le terme est de Louis Aragon. Eh bien, cette histoire, elle est très belle. Elle a fasciné des écrivains, Nabokov, Rilke, Horvath, Didier Blonde, là récemment. Mais on sait aujourd'hui que c'est une sculpture, c'est pas un masque mortuaire.
Et donc, il y a Swift, alors ?
Il y a Swift. Alors, l'intérêt de Breton pour Swift reste pour moi, alors pas énigmatique, parce que Breton aime beaucoup Swift, il aime l'humour. Hein,
nous sommes il très a fait l'anthologie de l'humour, non ?
Mais exactement, exactement. Et j'ai l'impression que Swift, pour lui, incarne cet humour noir qu'il va d'ailleurs opposer au cynisme de Voltaire. Hein, Breton n'aime pas Voltaire.
Mais l'instruction domestique, par exemple, c'est vraiment très très bien.
Mais absolument. Ça marche. Non, Swift, c'est assez extraordinaire. Ouais. Hein, et donc, ça, c'est les trois masques qui ont fasciné André Breton.
Et donc, après, vous allez vous confronter à un Mont-Marchand.
Absolument.
Quel est le premier marchand que vous rencontrez dans votre enquête ?
Alors, le premier marchand, en fait, c'est celui qui a vendu le masque à ce musée. Hein, c'est un... J'avais juste un nom, parce que c'est dans ce livre de Benkart, il y a un nom qui est mentionné, c'est Wolfgang Grötzinger. C'est un nom relativement courant. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches, mais qui était ce Wolfgang Grötzinger ? Et par un concours de circonstances qui serait trop long à expliquer maintenant, je suis tombé sur sa fille. Et j'ai pu l'appeler au téléphone et je lui ai dit, bah, madame, est-ce que vous avez connaissance de ce masque, votre père, est-ce que c'est votre père qui l'aurait vendu aux archives littéraires allemandes ? Et elle me dit, mais écoutez, mes chers messieurs, mais j'en ai aucun souvenir, je ne sais pas du tout, mon père n'en a jamais parlé. Mais sachez que mon père a lui-même fait faire une empreinte faciale et il aimait raconter cette histoire parce qu'il a failli s'étouffer. Hein, quand on fait une empreinte faciale et qu'on est encore en vie, il faut bien qu'on respire. Et donc, on mettait des petits tuyaux dans le nez pour qu'on puisse respirer. Et les tuyaux s'étant obstrués, Monsieur Grötzinger a failli mourir. Donc, le masque, l'empreinte faciale de l'homme vivant a failli devenir un masque mortuaire. Hein, donc, il aimait beaucoup raconter ça. Elle m'a envoyé des photos de son papa, du masque qui est devenu entre-temps un masque mortuaire, parce qu'entre-temps, Wolfgang Grötzinger est mort. Hein? Et donc, dans ce sens-là, cette première figure, Grötzinger, il m'a beaucoup intéressé parce qu'il a écrit une thèse durant la Deuxième Guerre mondiale sur la réception marxiste de Hegel. Il faut imaginer ça. En même temps, c'est un quartier-maître de l'armée allemande. Hein? Donc, il doit donc sacrifier à l'esprit völkisch de l'Allemagne hitlérienne. Il écrit un texte politiquement correct qui va défendre devant un jury dans les premiers jours de 1945. Vous imaginez, l'Allemagne est déjà sous les bombes. On voit la fin de la guerre venir. Et ce mec, il pense à rien d'autre qu'à faire une thèse sur la réception marxiste de Hegel. Et d'ailleurs, bon, concours de circonstances assez extraordinaire, ça l'aidera ensuite à se reconvertir. Parce que quand il est prisonnier, il est emmené en Alsace, Alsace-Lorraine, et c'est là, dans un camp de prisonniers allemands, qu'il va donner des cours sur Hegel, voyons.
Excellent.
Donc, vous voyez, c'est une première figure intéressante. Alors, lui a acheté ce masque auprès d'une figure qui est totalement inconnue, qui s'appelait Anton Antonopoulos. Anton Antonopoulos était un...
On est dans Tintin, c'est bien.
Ouais. On est quasiment dans Tintin, hein, et avec ce nom extraordinaire... Anton Antonopoulos, je me suis donc mis à la recherche d'Anton Antonopoulos et je suis tombé sur des figures invraisemblables. Mais personne n'était ce Antonopoulos que je cherchais. Je suis donc allé à Vienne, à la recherche, je suis allé dans les archives de la presse, les archives du cimetière, j'ai fini par trouver sa tombe, entre autres. Hein, parce qu'Antonopoulos est mort juste après la guerre. Et sa fille, d'ailleurs, est morte assez tardivement. Elle a eu presque 100 ans au moment de sa mort, mais malheureusement, elle était morte au moment où je faisais ma recherche. Donc, je ne pouvais pas savoir comment ça s'est passé, pourquoi, d'où son père, ce sculpteur, tenait-il le masque mortuaire de Hegel. Et, en fait, il y avait un élément qui m'avait passablement troublé, c'est qu'un théologien a trouvé, il y a une trentaine d'années, une lettre d'un Hegelien de 1836, donc peu de temps après la mort de Hegel, Hegel qui est mort en 1931, où il dit à quelqu'un, écoutez, je me suis mis à la recherche du masque mortuaire de Hegel, je suis désolé, manifestement l'autre lui avait commandé ce masque, c'était la mode dans ces années-là. Et il lui dit, je suis désolé, semble-t-il que le masque mortuaire de Hegel n'existe pas. Alors comment ça se fait? Moi j'ai eu ce masque entre les mains. Alors, il existe, mais comment ça se fait qu'il n'existe pas? Alors, comment est-ce qu'on peut penser cela? Et le livre, si vous voulez, essaye de raconter sous une forme d'enquête. Donc, je raconte mon enquête, en fait, comment j'ai réussi à entrer en contact avec l'univers, on va dire, d'Antonopoulos, à travers des vieux journaux allemands qui gardaient les traces d'un procès que quelqu'un lui avait intenté, et à travers, ça aussi, c'était vous savez, normalement, quand on cherche, en tant que chercheur, on ne va pas forcément aller dans les revues des nazis de 1934. Hein, c'est normalement, quand on peut éviter ce genre de documents, on l'évite. Mais c'est là-dedans que j'ai trouvé un article du plus grand collectionneur de masques mortuaires des années 30 et 40, qui était un certain Walter Krieg. Alors, le nom est invraisemblable, Walter Gehr. Mais Walter Krieg avait une immense collection de masques mortuaires. Et ce Walter Krieg est très sceptique, pour le dire de façon un peu euphémique, par rapport à Antonopoulos. Il lui reproche de fabriquer parfois des masques. Alors donc, je me suis demandé, est-ce que ce nazi qui écrit ce texte, est-ce qu'il a raison ? Malgré le fait que ça soit un nazi, ça arrive qu'un nazi puisse avoir raison, ça nous gêne, mais c'est comme ça. Ou alors, est-ce que c'est par pure xénophobie, par antisémitisme, ce grec, il appelle Antonopoulos un grec, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout un grec. Il vient de Moravie, qui à l'époque, quand il est né, faisait partie de l'Empire austro-hongrois. Et qu'en est-il? Et j'ai donc poursuivi la maquette pour essayer d'écrire mon livre.
Et donc, quel est le rebondissement dans l'enquête ensuite?
Alors, est-ce que je le raconte ou pas?
On ne spoil, il faut pas
voilà,
spoiler.
Voilà, c'est un peu la question est-ce que je vais divulgâcher l'histoire de ce masque?
On peut passer à, comment je vais dire, la femme cachée, raconter l'histoire.
Oui,
absolument. C'est très beau à voir et ça... C'est un petit peu la synthèse de tout, puisqu'on a le côté freudien du sommeil.
Absolument, absolument. Il faut savoir que, donc, comme je le disais au début, les surréalistes se sont passionnés pour ce masque. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1931, donc au centenaire de la mort de Hegel, les surréalistes vont faire un numéro de leur revue, qui à l'époque était le surréalisme au service de la Révolution. C'est le virage très communiste de cette revue. Et ils font un numéro en l'honneur de Hegel. Et qu'est-ce qu'ils reproduisent dans ce numéro? La photo, du masque de Hegel, vue de profil. Et la même année, le même mois, en décembre 31, un certain monsieur Hitler, Adolf de son prénom, qui a un journal, un quotidien qui s'appelle Völkische Beobachter, l'observateur Völkisch, national populiste, si vous voulez, lui aussi commande un article sur ce masque et en reproduit aussi le même mois le masque de Hegel dans ce journal, alors officiellement nazi. Et on se dit, mais il y a donc du côté communiste de la gauche et de l'extrême gauche et du côté de l'extrême droite, en même temps, une volonté de revendiquer Hegel pour eux. qui, je dirais, a été couronné de succès beaucoup plus du côté surréaliste que du côté nazi, hein, où cette, il s'agissait essentiellement d'enlever Hegel à ses gauchistes, pour eux. Hein. Donc, en revanche, Breton et Éluard vont s'intéresser à ce masque. Ils vont, dans une revue, il y a une sorte de collage avec les photos des surréalistes, tous les yeux fermés. Au milieu, il y a ce que vous disiez, hein, la « je ne vois pas la femme
». Cachée dans la forêt.
Cachée dans la forêt. Donc, vous avez la, sur la reproduction, tous ces hommes, les yeux fermés, et au milieu, la femme que ne voit que le lecteur, mais que eux, ils rêvent. Hein. Et donc, là, on arrive à une sorte de virage dialectique entre le matérialisme hegelien, on va dire, et l'idéalisme, ou en tout cas l'intérêt pour le monde des idées de Freud, et qui va se combiner en un drôle de passe-temps. C'est Éluard et Hegel qui vont aller chez un sculpteur parisien du nom de René Hichet, qu'on a revu récemment. Hein. Il y a une belle exposition Hichet faite par sa petite-fille, Rosalène Hichet, au musée de la piscine à Roubaix. Et ils vont faire des empreintes faciales d'eux-mêmes.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et qu'ils vont s'offrir mutuellement. Hein. Et donc, je me suis intéressé aussi à ce que le masque de Hegel a produit chez eux, donc pas seulement une sorte de réflexion Breton qui reprendra encore la photo de Hegel dans un texte plus tardif, dans la fin des années 50, mais aussi l'idée qu'il fallait d'eux-mêmes anticiper en quelque sorte ce moment mortuaire, ce masque funèbre, pour donner forme à cette fascination qu'avaient les surréalistes pour la mort, pour le sommeil, pour l'autre réalité au-delà de la réalité.
Et aussi se mettre dans le Panthéon.
Et bien sûr, c'était une façon assez adroite de créer une sorte de statue d'eux-mêmes avant le terme.
Parce qu'il les accroche chez lui, le Breton.
Alors
on sait. Le masque d'Éluard et de lui-même, il les accroche à ses murs.
Exactement. Il y a une photo d'un photographe qui s'appelle Marc Vaux et qui attache. Donc on sait que Breton avait attaché les deux masques, celui d'Éluard et le sien, dans l'encadrement de la fenêtre chez lui, rue Fontaine. Et le masque d'Éluard a d'ailleurs été endommagé au moment de la libération de Paris. Il porte des traces de balles sur le montant. Et l'exemplaire qui avait été exposé donc à Roubaix et cet exemplaire qui a été endommagé. Donc c'était bien l'exemplaire qu'André Breton avait chez lui à la maison. Il avait aussi dans son appartement, ce qui est assez intéressant, un autre masque qu'il croyait être un masque mortuaire, le masque de Robespierre. On a une photo où on voit ce masque de Robespierre. Seulement, là aussi, vous savez, Robespierre a été massivement blessé avant d'être guillotiné. Hein. Et en réalité, on avait fait faire un masque, une empreinte faciale, alors que Robespierre était encore en vie. Et on arrive à le reconnaître sur le masque, c'est sans doute pas le masque mortuaire avec la mâchoire presque arrachée hein, de Robespierre. Mais Breton aimait donc se placer comme ça sous le regard de ses ancêtres hautement symboliques, Hegel, Robespierre, Pascal ou Swift.
Et donc ça lance une mode, là il y a une photo d'un dénommé Paul Amann qui produit l'empreinte faciale de Man Ray.
Exactement, et qui en a fait une autre d'André Breton aussi. Paul Amann est une figure intéressante qui a inventé une nouvelle façon de faire des masques mortuaires. Parce qu'imaginez-vous, quand on vous met du plâtre liquide sur le visage, même si vous graissez votre visage et les poils très soigneusement, on sait que c'était assez douloureux quand on enlevait ce masque. Hein, ça vous arrachait des bouts de peau, des bouts de poils, très désagréable. André Breton le décrit dans un petit texte qui s'appelle « Le masque du jour », qui est resté inédit. Et Amann invente un mélange à base de glycérine, qui, d'après ce que j'ai lu, avait une petite odeur entre la soupe de tomate et la vanille, donc très étrange, ouais. Mais tout le monde disait que ce n'était pas désagréable, ouais. Et surtout, on pouvait l'enlever, vous voyez, comme les masques de Fantomas, hein, ces masques en caoutchouc, qu'on pouvait tout simplement soulever, disons, du visage sans que ça fasse mal. Et donc, Breton commande un tel masque à Hamann, parce que Hamann a dû quitter l'Allemagne, il est à moitié juif, en 1933, il s'installe à Paris, à la Cité Fleurie, pendant 3 ans. Et comme c'est un homme intelligent, eh ben, il quitte Paris en 1936 et va à Londres, ce qui lui permettrait à sa femme de survivre à la guerre et à la déportation de tant d'autres juifs et personnes contestataires. Donc en fait, Hamann est resté 3 ans à Paris et on sait qu'il a fait faire le masque de Breton d'André Gide. Hein, ce n'est pas le masque mortuaire, c'est un masque, donc une empreinte faciale quand il est encore en vie, et de Man Ray, et on a même une photo, parce que Man Ray s'est photographié lui-même au moment où Hamann est en train de lui mettre cette masse caoutchouteuse sur le visage. Et ensuite, eh ben, Man Ray a utilisé ce masque produit à partir de l'empreinte faciale comme illustration de son premier recueil de photos qu'il a publié aux États-Unis en début des années, je crois que c'était en 1934, il me semble. Hein. Et ensuite, il y a d'autres. Donc, il aimait beaucoup les masques, Man Ray, et il a invité d'autres amis à faire des masques chez Hamann. Donc, on sait qu'il y a eu toute une production de Hamann.
Et je viens seulement d'y penser maintenant, mais donc, quand on a ce qui était affiché chez Breton, quand on l'a vu pour la première fois à Beaubourg,
oui.
Son mur, il y a quand même une problématique du masque.
Absolument.
Très large, très
large.
Universaliste, enfin,
absolument.
Ethnologique.
Et qui dépasse de loin toute idée de juste le masque mortuaire.
Ah pour oui, Breton, non, vraiment.
Breton ne fait pas de distinction radicale, on va dire, entre les masques, notamment des Polynésiens, qu'il achète, donc qu'il collectionne et qu'il revend, tout comme Éluard, entre les masques qu'on peut porter et les masques mortuaires. Hein. Donc, je vous rappelle, un masque mortuaire n'est pas un masque que vous pouvez mettre sur le visage. C'est une empreinte. Donc, c'est un positif à partir d'un négatif. C'est le négatif qu'on pourrait mettre sur le visage, mais pas le positif, bien entendu. Hein? Et donc, il y a cette fascination. Breton a de très belles phrases là-dessus. Lui, ce qui l'intéresse, c'est cet élément d'étrangeté et de unheimlich qu'il tire de Freud. Cette inquiétante étrangeté où le masque nous rappelle que nous sommes toujours autre chose que ce qu'on voit, qu'il y a vraiment une sorte de profondeur du masque. Et en même temps, le masque n'étant que superficie, il devient aussi espace de projection, une sorte de façon de se rêver d'autres vies, de s'ouvrir à d'autres réalités. Et je crois que c'est vraiment ça qui a fasciné Breton dans le masque mortuaire, qui traditionnellement serait, selon l'idée qu'on s'en faisait, le dernier moment de la vie de quelqu'un. Vous voyez, c'était l'idée que le masque mortuaire, ça formerait la somme d'une vie. Comme tout le savoir, tout s'est accumulé dans le dernier moment, au moment où je fais le dernier souffle, et la personne qui fait le masque, qui produit le masque mortuaire, doit le faire très vite, dans l'idée de ne pas rater ce moment charnière. Hein.
Mais pour les vivants, ce que Freud dit dans La mort, ce qui compte, c'est les vivants.
Ah oui.
Et pour les vivants, le masque, c'est pour choper la mana. Pour,
absolument.
Il y a quelque chose de magique.
Tout à fait.
Être en contact avec le... Alors, je pense, j'ai reçu un livre, je vous ai fait suivre l'image, avec le masque mortuaire de Wagner.
Tout à fait.
Et donc, ça, c'est un livre qui fait référence à Mircea Eliade, à René Guénon. Donc, on est dans tous domaines ésotériques.
Absolument.
Et donc, on a une idée de mana. Et je ne sais pas pourquoi, je vois le masque mortuaire de Gide. Et donc, j'ai cette idée aussi de par exemple, puisqu'on a entendu la bande-son du film de Véronique Goël en première partie, et qu'on a entendu un petit test qui parle de ça, sur les générations, la part des grands hommes, la bascule avec De Gaulle, par exemple, comme image politique, par exemple, et on n'a qu'à imaginer les présidents de la République après De Gaulle, on ne retrouve plus jamais cette posture du grand homme. Personne n'a eu l'idée de faire le masque mortuaire de Sarkozy.
Chez nous, donc c'est assez intéressant quand vous regardez ce qui se passe dans les cultures, notamment en URSS, où donc on a fait systématiquement tous les masques mortuaires de tous les grands chefs d'État,
Bon, ah, ça continue. Ouais, alors,
et donc, dans ce sens-là, on peut même penser que le fait d'exposer le cadavre jusqu'à aujourd'hui, hein, de Lénine, de Ho Chi Minh, de Mao, c'est une façon poursuivre sur cette voie.
On vient de voir l'assaut des islamistes en Syrie, et donc ils ont cassé les statues. Donc ça nous rappelle, nous, la fin du soviétisme.
Bien sûr.
Le soulèvement à Budapest en 1956, la première chose qu'ils font, c'est renverser une statue de Staline, enfin, qui est immense.
Ben, ce qui montre bien que nous avons un rapport fétichiste et, comme vous dites, magique aux statues et a fortiori au masque mortuaire, parce que le masque mortuaire semble non seulement incarner, je dirais, la puissance de vie de quelqu'un, mais aussi ce moment crucial où la vie se termine et où nous devenons enfin, hein, tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change, je dirais Mallarmé. Hein. Donc, le moment où nous devenons la statue de nous-mêmes, en quelque sorte. Et ce masque, André Gide, c'est un exemple très intéressant. Il y a une fameuse photo d'André Gide, rue Vanneau, où vous le voyez, c'est manifestement l'hiver, il porte un bonnet, il porte des gants, il écrit. Et au-dessus de son épaule droite, on voit le masque mortuaire de Léopardi.
Excellent. Hein ?
Et donc, il y a une sorte de flux spirituel, on va dire, qui va de ce masque, justement les yeux fermés, et qui va arriver dans ma plume et sur ma page. Et donc, quelque part, ce rapport magique, je crois, explique aussi pourquoi, aujourd'hui encore, il y a des gens qui font des masques mortuaires. Et vous savez, un masque mortuaire, vous ne pouvez pas le jeter. Vous ne pouvez pas le détruire. Ça vous paraîtrait sacrilège. Et ça nous montre que nous-mêmes, nous ne sommes peut-être pas entièrement libérés de cette pensée magique.
Vous qui êtes un spécialiste de Beckett, on n'imagine pas un masque mortuaire de Beckett au-dessus de la tête d'un écrivain.
Non, mais on imagine facilement les photos extraordinaires.
Il y en a partout.
A eu une photo, enfin un physique tellement extraordinaire.
Non, et puis dans la réalité, on voit, je sais pas, sur Facebook.
Tout à fait.
La photo de quelqu'un, de quelqu'un qui publie des livres ou qui a la velléité d'écrire et tout, on voit plutôt dans son intimité qu'il a pris depuis son Mac. Et derrière, il y a Beckett.
Absolument.
C'est énervant.
Mais avec la grande...
Il y a eu un effet Duras comme ça, donc il y a très peu de gens, mais ça fonctionne.
Mais avec la grande différence à mes yeux qu'on les montre vivants.
Oui, ça n'a rien. Et donc... c'est pas poseur. C'est compliqué parce qu'on a l'impression qu'il pose tout le temps Beckett sur ses photos.
Tout à fait. Alors qu'il n'aimait pas ça. Hein, donc, mais je pense qu'il
difficile.
Était conscient de l'attractivité de sa présence, on va dire.
On ne peut pas. C'est l'image de soi à partir d'un certain moment.
Elle ne vous appartient plus entièrement. Hein.
Non, et puis ça fait partie du travail quand même.
Absolument. C'est ce qu'il détestait dans le succès, Beckett.
Je crois qu'on a fait le tour là. On est à la fin de l'émission. Je voudrais remercier ses frères familles qui est de l'autre côté de la vitre, ainsi que Lucas Panture et notre Mathieu qui vient d'arriver. Et c'est bien Mathieu, j'espère. Non, c'est pas ça, mais enfin, bon, je vais le dire la prochaine fois. Merci à vous d'être venus. Donc Thomas Hunkeler, le masque de Hegel. Au seuil, je vous mettrai ça sur la page podcast. À la semaine prochaine.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.